Et bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode de Shapeology consacré à Renault Cardinal. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de l'épisode dans laquelle Renault nous parle de son parcours, de l'histoire du WL et du Shapers Club. Dans cette deuxième partie, on reparle du Shapers Club avant de visiter l'atelier actuel d'Angoulins et de discuter du projet de création d'un nouvel atelier à Marennes, un véritable lieu de vie dédié au surf et au shape actuellement en chantier. On parle aussi de leur approche de l'écologie, des influences de Renault en tant que shaper et de son approche du shape. Passez sur notre compte Instagram shape.ology et sur notre site shapeology.fr pour retrouver tous les liens et photos de l'épisode. La visite de l'atelier sera bien plus parlante. Et maintenant, place à Renault. Bonne écoute! Le Shapers Club, c'est une chance incroyable parce que
ah ouais.
Ça crée des trucs, des rencontres, des échanges ouais. D'idées, de,
ouais, j'en ai
tu
eu,
dis, de gens qui ne seraient peut-être pas vus autrement et c'est super cool quoi.
C'est,
super
cool. C'est un carrefour où les Shapers se rencontrent et, puis, et créent des liens, tissent des liens et conservent des liens. C'est cool, franchement. Il y a Thomas qui achète des planches à Nipper Chase pour meubler son shop. Enfin, il y a des, il y a, ils prennent aussi des Joshua parce que Joshua, quand on a eu Covid, on s'est retrouvé avec zéro possibilité d'avoir qui que ce soit qui vienne travailler avec nous puisque les frontières étaient fermées. On pouvait vivre en France, on pouvait vivre dans son pays, mais l'Australie a été fermée très très longtemps. Même aux Australiens qui étaient en extérieur, parce que Beau était un petit peu dans ce problème-là, il voulait rentrer chez lui et il a fait genre 3 semaines dans une chambre d'hôtel à pas bouger pour voir s'il allait pas avoir le Covid qui allait se déclarer ou un truc comme ça. C'était drastique comme et donc on s'est retrouvé, on s'est dit putain, le Shapers Club il va crever si on commande pas des planches quoi. On avait un conteneur à faire venir. Alors, on est à très bonne relation avec Darren Burford. Donc, il remplit son conteneur de pain. Et par-dessus, on demande à Neil, à Joël, à Eden de Dead Cooks, à Joshua Keogh de pré-shaper, de shaper des boards et qu'ils nous les mettent en carton. Et que par-dessus les pains, on ait une cargaison de pain qui rentre. Et Joshua, il a dit, moi, j'habite à, je sais plus, 3000 km de Burford. Les pins, je les aurais jamais, je peux pas faire ça. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est je peux peut-être aller shaper chez un de vos shapers. Donc, du coup, il est allé shaper chez Thomas. Mmh. Et ils ont fait copain-copain, et depuis, bah, voilà. C'est dû à ça. Mmh. Donc, c'est, tu vois, on est un peu entremetteurs, j'ai envie de dire, et puis ça se passe bien. Ils s'entendent très bien, ils sont hyper potes maintenant, et c'est tout ça parce que on lui dit ouais, on va demander à Thomas, il va peut-être dire oui, puis si tu peux, bah tu vas shaper chez lui, et puis comme ça, tu nous fais nos planches. Mmh. Et ça s'est fait comme ça.
Trop bien.
Oh, c'est cool.
Une fierté un peu pour ça.
Bon, fierté, je sais pas, mais non, enfin, c'était pas un but en soi, mais ça fait plaisir que ça se passe comme ça, c'est sûr. Ouais. Mais après, voilà.
La cerise sur le gâteau.
Ouais, tu vois, c'est tous des bons gars. Les gars avec qui on s'entendait pas, on les a pas reconduits. Et les gens qui s'entendent avec nous, voilà. Nos amis sont les amis. Les amis des autres aussi, ils s'entendent très bien. Donc voilà.
Sur ces belles paroles, on part visiter l'atelier. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir le reportage photo associé à l'épisode sur Instagram et sur notre site pour une immersion complète.
Donc, le début de la prod, évidemment, c'est là. Hein. C'est le centre névralgique de l'entreprise, c'est la PS3000.
C'est donc la machine.
C'est ça, c'est la machine. Shape. Si tu veux fusiller la boîte, tu pètes la machine. Et là, on est dans la merde. On a toujours été très technologie avec mon frère. Donc, du coup, on a toujours eu... une certaine attirance sur ce genre de machines. Tu vas voir, il y en a plein de machines, imprimantes 3D, impression numérique, machin. On en fait Voilà, on a toujours été à fond là-dedans. Donc du coup, bah oui, on a c'est notre troisième commande numérique et celle-ci, on va la mettre en vente. Et il y en a une nouvelle qui arrive là, un peu la dernière sortie, la PS Dino, qu'on voit un petit peu émerger. On va aller chez Dark Art, aller chez, je crois qu'elle est chez Arakawa, doit être chez Paizel, aller chez Yargza. Il y a quelques gars qui ont commencé à l'acheter et c'est la suite, c'est le même fabricant, mais c'est la nouvelle.
Et c'est quoi les innovations qu'il y a dessus? C'est de la
Bah, c'est toujours la
précision,
précision.
c'est... Ouais,
C'est la
c'est ça.
précision. Je pense pas qu'elle aille tellement plus vite, mais c'est de la précision. Donc, nous, notre matière première, bah, vient principalement des États-Unis ou d'Australie. C'est du Arctique, donc c'est pas, on travaille pas encore avec US Blanc.
Vous
Et
avez
du
tout...
Burford.
Ouais, d'accord, vous
Ouais.
avez deux fournisseurs
Deux
quand même
fournisseurs.
pour...
Burford, qui pour moi a vraiment la qualité au-dessus. Les riders préfèrent.
Et vous faites que du polyuréthane?
Non, on fait aussi d'époxy. Alors, pas mal, mais on en fait.
Ouais.
Voilà, on fait les deux mousses. Bon, avec Viral, on prend du Marco, hein. J'aime bien commencer à travailler avec Eon en Bretagne. Ils font un très bon produit aussi en mousse fabriqué en France. Donc je trouve ça très cool. Donc on en prend de plus en plus. C'est vraiment un bon produit.
Ok. Mais ça reste une part minoritaire de ce qu'on vous
Ah
demande,
ouais.
comme tous les,
Ouais.
enfin comme beaucoup de
Ouais, ouais,
shapers.
ouais, 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 ouais. Après, on pourrait passer le bas, hein. On pourrait en faire quand même plus, hein, mais en fait, c'est une histoire d'organisation et d'infrastructure qui nous permet pas de travailler l'époxy dans des bonnes conditions pour faire un travail simple et efficace. On a travaillé avec un gars qui s'appelle Danny Villa, un Espagnol, qui lui est 100% époxy. Il le travaille très facilement, très très facilement. Et en le visitant, on s'est dit, bah évidemment, si on se met pas dans une pièce adéquate avec des conditions atmosphériques adéquates, bah l'époxy c'est une galère. Dès lors que t'es dans des bonnes conditions, mec, ça se travaille comme de la polyester.
Ton
Parce que
espace, ton
le nouvel
organisation.
atelier sera tourné vers une totale possibilité de passer à une prod plus importante en époxy, sans aucun souci. Bah, je vais la faire tourner, comme ça, le temps que je continue la visite, elle va travailler pour nous, et puis elle va finir le dernier chef de la semaine. Donc,
Bah, cool.
c'est très simple d'utilisation comme machine. Je vais l'éteindre là parce que tu vois, on se repère avec un laser. Si le laser, il n'est pas. Il n'est pas. Il y a trop de lumière, on ne le voit pas. Et attends, je suis pas. Donc, on va vide. Hop. Donc, elle a fait le top, t'as vu, on travaille non pas avec un routeur classique, on travaille avec un disque. Ce qui
Ok.
permet à la machine de faire le top et le rail.
Ok.
Une machine classique, comme on peut trouver dans le commerce. C'est une bite comme ça qui vient, un cutter qui vient et qui vient, une fois qu'il est à l'apex, peut pas aller chercher l'arrondi du rail et passer sur le dessous, parce que on est sur trois axes, on n'est pas sur quatre ou cinq axes. Donc à moins d'avoir partir sur une quatre ou cinq axes, mais là mec, tu pars dans vraiment une machine qui est très complexe avec beaucoup d'électronique. Et quand tu as un problème d'électronique sur une machine, il faut faire venir l'ingénieur américain ou australien, ça coûte une blinde, c'est le bordel. Là, celle-ci, on l'a depuis 2009. J'ai changé. Enfin, tu vois, c'est un châssis en alu. C'est des vis, c'est des. Il y a des roulements à billes. Enfin, c'est manuellement, tu la répares. Quand ça commence à être de l'électronique, si t'es pas là-dedans, c'est mort. Donc, elle a fait le top, un quart d'heure, au moins, faire le top.
Ouais, c'est un quart d'heure, tu dis.
Ouais, un quart d'heure à peu près, ouais. Un quart d'heure, parce qu'elle fait faire le rail. Peut-être moins, ça dépend de la taille de la planche. Hein. Hop. Le système de succion qui vient stabiliser la planche. Voilà, ça va, ça bouge plus. C'est stable, il n'y a plus qu'à la lancer.
Et du coup, c'est un logiciel dédié qui va avec.
Ouais, évidemment, on travaille avec Shape 3D pour tout le design. Et après, t'as un chef dédié qui.
Ouais. Et quand tu passes de Shape 3D à la machine, t'as pas de recalage à faire particulier par rapport à ta machine.
Non, ils ont Mickey, celui qui a donc le fondateur d'APS 3000, travaille avec Thomas Villemain et travaille ensemble. Donc c'est
tout roule, quoi.
Tout roule, il n'y a pas de question à se poser. Ouais, tu peux la voir d'ici si tu veux. On va couper la latte. Voilà, c'est parti. première utilisation de la machine, c'est simplissime.
Donc après, là, t'as beaucoup de travail de finition dessus. Ça dépend des machines aussi ou...
Non. Alors ça dépend des machines, tout à fait. Bah là, on a le premium du premium au niveau du disque. Hein. On a le gold. Donc c'est celui qui laisse le moins de marques. Voilà l'aspect du pain.
Ouais.
Toi, donc les grands caves sont faits, tout est fait.
T'as pas une finition incroyable. Enfin, t'as pas des heures à passer dessus. Quoi. Et au niveau des rails, t'as quand même.
J'ai juste le rail. Et encore, on travaille avec des pads et on se traite très vite, ça va. C'est 10 minutes.
Tu passes du temps, par contre, en amont sur l'ordi.
Ouais, mais par contre,
le travail, temps que tu passes plus à.
Quand le travail est fait, t'as pas besoin de revenir dessus.
Tu peux dérouler. Quoi.
C'est la grosse différence avec un shaper à la main, évidemment, qui nécessite d'être. Il a besoin d'être en pleine forme. Il a bien mangé, il a bien dormi pour pouvoir envoyer. On est 16 ici. Donc il faut quand même que derrière la prod, elle soit capable de substanter tous les gars qui suivent derrière et qui vont fabriquer la planche de surf et ceux qui vont la commercialiser. Donc on ne peut pas se permettre d'être un shaper ou deux shapers à la main et sortir 4-5 planches par jour. Pourquoi pas. Enfin voilà, on a passé le cap parce qu'on avait besoin de passer le cap. Moi, je fais 10 ans à la main. Ouais. Et après, je suis passé, en effet, à la commande numérique. C'est une histoire de plein de choses. Enfin, de vision globale de ce que nous, on voulait de l'entreprise, mon frère et moi. Et c'était un levier pour accéder à notre idée, l'idée qu'on se faisait de la fabrication de planches de surf. Parce que moi, j'ai connu l'arrivée de la commande numérique. Ouais. Bien que ce soit Barlan qui a certainement mis au point la première commande numérique au monde pour fabriquer des planches de surf. C'est cool, c'était une invention française, mais qui était relativement. Qui était restée sur le territoire. Mais c'est pour moi la première commande numérique, c'est la DSD, celle que Luciano Leao a mis au point, ce Brésilien, et qu'il a commencé à vendre à Arakawa, à Rusty, à Lost, et à un prix qui était quand même encore assez abordable. Et on s'est dit, mais c'est génial, il nous faut quelque chose comme ça. C'est clair et net. Et voilà, donc là c'est moi et j'ai Antoine aussi, mon back shaper qui travaille ici. Avant on avait 3 salles de chef dans cet atelier, mais au fur et à mesure, à cause du Covid, on a eu besoin d'avoir plus de salles de stockage et un shipping bay à la maison aussi. Mais on a eu besoin de salles de stockage pour stocker des pains, pour stocker de la matière première et le reste. Et du coup, il y en a une qui a disparu, une autre qui est devenue une salle de stockage, et du coup, on a gardé une évidemment, il en faut au moins une. Mais avant, on avait au moins 3 salles de chef ici. Donc, chef, voilà, les planches sont chépées. Elles suivent le parcours de par ici vers là. C'est une histoire de logistique aussi. Le bâtiment, c'est un bâtiment qu'on a fait construire. Donc, c'est selon nos plans, comme celui qu'on va avoir en arrière. Donc, après, ça passe en strat. Donc, là, c'est pareil, j'ai 2 ou 3 gars qui travaillent ici. Donc, il y a Antoine Gagnère, il y a Bruno Mougard qui est le chef d'atelier. Et il y a aussi Antoine Thénon, mon back shaper, qui est aussi très très bon glaceur, donc qui travaille dans cette salle-là. On a une salle à côté aussi pour les planches Epox. Donc voilà, il y a 2 à 3 gars qui travaillent dans cette salle tous les jours. Il y a de la place, tu vois, ça reste un endroit qui est quand même en ergonomie et qui est assez bien pensé. Et il nous permet de travailler assez sereinement sur différents projets. Bon, tu vois, grosse ventilation. On est très à cheval sur le côté RSE, santé. Hein. Ouais. C'est très important. Donc là, avant, c'était une cabine de peinture qui est devenue un mini salle de haute côte. On fait 2-3 hautes côtes de temps en temps, mais on continue à faire un peu de peinture. Mais c'est la dèche, on ne devrait pas travailler dans ces conditions-là. Bon, ce sera mieux à Marine.
Ouais.
Ouais, on fait comme on peut. Là, c'était une salle de prépa peinture avant. Et là, c'est la salle d'épox. Donc on fait les épox ici, voilà. On peut la monter en température, on peut rester entre 23 et 25 ici, avec un peu de ventile, on est bien, et ça nous permet d'avoir un truc qui se tend, qui se lisse, pas grand chose à poncer, c'est propre. Mais il faut être dans des conditions comme ça si tu veux faire de l'épox easy, sinon c'est une grosse galère. Et les teams, on fait les teams ici aussi, quand il y a des planches un peu particulières avec du carbone. Voilà, du sous-vide, bussorique, enfin tout ce qui est un peu technique, On l'a fait dans cette petite salle. Mais bon, dans le prochain atelier, on aura vraiment une grosse salle R&D comme il faut pour toutes ces projets un petit peu particuliers.
Et pourquoi vous avez choisi de dédier une salle spécifiquement à ces produits un peu techniques et toutes ces...
Alors, il y a des pollutions. Des fois, le mix entre époxy, démoulant et polyester, il y a des pollutions qui peuvent se créer entre les deux. Et du coup, tu te retrouves avec des gros problèmes dans la prod d'œil de poisson, de mauvaise adhérence RS. Donc, ce sont des salles qui doivent être distinctes. Et ensuite, c'est les montées en température avec toujours une ventilation correcte pour virer les vocs. Qui font que si tu te fais une salle d'époxy, mec, qui fait... là, on a une salle de... Je pense que la salle de haute côte va faire presque 100 mètres carrés. Je crois que la prochaine salle de strat fait presque un peu moins de 200 mètres carrés. Ouais. C'est donc énorme.
C'est vrai.
Et va chauffer à 25 degrés en plein hiver, ça. Ouais. Non, autant qu'on soit dans une salle plus petite, où il y a un meilleur rendement, mais qu'on puisse rester dans des températures correctes. Et après... Enfin, je pense pas qu'on vienne, tu vois, un peu aller sur le terrain des Firewire et le reste pour faire une massive prod et puis tout bousiller. Je pense qu'on restera toujours sur un petit pourcentage de planches époxy, même si on en fait un peu plus, on en fera, je pense pas. Voilà. Mais enfin, après, en novembre, on est allé visiter Dark Art et ils ont des salles de qui sont pas hyper grandes pour finalement une prod qui est quand même conséquente. En époxy, donc on s'est dit, wow, ça va, la salle qu'on est en train de faire pour l'époxy et autres projets annexes, ça fera l'affaire, ça devrait être bon. Même pour une prod un peu soutenue, ouais. 100 planches, 150 planches par an, je pense que ça le fait, c'est pas un problème. Donc une fois qu'elle est stratifiée haut de côté, ça passe dans le ponçage. Donc tu vois, ici rien n'est rejeté, hein, tout est confiné. Les poussières ne sont pas rejetées à l'extérieur. Tu as vu en plus aux alentours, on a des habitations, on a un magasin à côté de jouets pour enfants, on a un Basic Fit ici. Donc, mais l'autre raison pourquoi est-ce qu'on bouge d'ici, c'est parce qu'on a une médecine du travail et des inspections du travail qui nous disent, les gars, vous n'êtes plus aux normes. Vous ne pouvez plus rester ici pour fabriquer ce genre de produit. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à prospecter ailleurs et puis à essayer de trouver un coin où on pourrait s'établir. Mais on passe chez Noël Land.
Dans tous les
cas. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais nous, c'est une volonté. Ça n'a jamais été. Ouais. Mais.
Bah, in fine, c'est bon pour les gars aussi. Donc,
mais surtout. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait. Pour nous, mais moi, je travaille toujours, donc pour moi aussi, quoi.
Oui, oui.
C'est ça.
C'est sans.
Mais ouais, ouais. Donc bon voilà, c'est la salle de ponçage, ils sont deux. Il y a Charlie et Lucas qui travaillent ici. Voilà. Donc là ponçage toute la journée. Donc tu vois flux d'air et ça va directement dans des poussières et après on récupère la poussière dans des bacs.
Tout part dans des bacs.
Tout part dans des bacs. Rien n'est rejeté. Rien n'est rejeté. Ça a toujours été une volonté de façon quand on a commencé. On était déjà avec des normes européennes fortes. Nous, on a toujours utilisé, on va dire, le système pour avancer. Donc, on est passé devant des commissions. C'est Raffarin qui nous avait donné une subvention pour la construction de l'atelier. C'est la CDA de La Rochelle qui nous a construit l'atelier. C'était Bono, le maire de La Rochelle, qui nous a bien soutenus pour la construction de l'atelier aussi. Voilà, on a toujours utilisé un petit peu ce que l'administration pouvait mettre en place.
Ouais.
Voilà, tu payes des impôts, c'est un retour sur investissement.
Ouais, mais en même temps, d'un autre côté, vous jouez le jeu de la mise aux normes et
bien sûr.
Tout ça. Donc du coup, c'est des donnant-donnant.
Donnant-donnant, exactement. Qu'une fois que les planches sont terminées, elles sont dans la partie, soit on va partir au shop pour te les montrer, soit elles sont dans le stockage, prêtes à partir. Donc là, c'est l'emballage et on expédie un petit peu partout. Là, tu as la petite salle de polish. Bah, on fait des glaçons, on fait tout et n'importe quoi au niveau des bords. Hein. Un bel exemple de plaquage bois. Hein, c'est Antoine qui l'a fait. Un très très beau plaquage bois. Voilà, résine teintée, pinline. Une belle illustration du savoir-faire. Et après, on a notre shop. Donc là, c'est un shop, tu vois, c'est que du hardware. On fait pas de, on vend pas de, on vend un petit peu de wear à nous, mais sans plus. Le reste, c'est que de l'accessoire et de la board. C'est tout pour le surfeur. On travaille un petit peu avec des housses, mais on travaillera plus fort. On aura un magasin qui sera beaucoup plus dédié à la vente sur Marraine que ici. Et sinon, le reste, c'est que de la board. C'est que de la board. On fait que de la board. C'est tout. Tu as tout ce qu'il faut pour surfer ici. T'as environ un peu plus de 200 planches. On a dans la réserve d'à côté. Ouais. Donc avant, t'avais. Avant,
tu fais beaucoup de planches de stock quoi, pour les vendre au magasin. En pourcentage, entre guillemets.
On est obligé d'en avoir parce que c'est un shop. Hein. Après, est-ce qu'on en fait beaucoup? On fait beaucoup de sur mesure. Donc des fois, c'est un peu des boards vitrines. Mais tout ce qui est, tu vois, planche de guest, il y a ce que tu vois là. T'en veux une autre, faudra t'attendre que le shaper revienne l'année prochaine. Donc du coup, soit le gars patiente, soit le gars craque.
Ouais.
On ne vend pas tant que ça au shop, nous.
Ouais, d'accord. C'est surtout des commandes.
Non, ouais. Le shop ici, si tu veux, il.
C'est pas ça qui fait la prod.
Non, pas du tout. C'est rien du tout là. Enfin, tu sais, le gars qui passe ici, c'est pas une destination surf. Donc non, le mec qui passe par là, c'est qu'il va à la pêche.
Il n'y a pas des gens qui passent par hasard, enfin peu, on va dire.
Un mec qui passe par hasard et puis qui se dit, mais tu sais quoi, je vais rentrer à la maison, mais je vais rentrer pas les mains vides avec une petite planche à 950 balles. C'est rare quand même, tu vois. Ouais. Le mec, il achètera autre chose avant.
Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais.
Ouais, donc non. Et quand les gens viennent ici, c'est qu'ils ont une certaine motivation.
Oui, bien sûr.
Voilà. La deuxième, le truc avant qu'on parte sur autre chose, que je voulais te montrer. Travail de mon frère, c'est l'intranet. C'est-à-dire que toute l'entreprise, elle est régie par un intranet dans lequel tu as toute la prod qui est en historique. Depuis nos débuts, enfin depuis que ça existe. Et donc là, on a pour chaque planche et chaque marque toutes les informations pour pouvoir la refaire. Tout ce qui va être évidemment dimension. Mais aussi toutes les informations sur le pain qui a été utilisé, toutes les pain, c'est-à-dire marque, densité, lattage, tout est vraiment archivé. Toute la stratification, résine utilisée, fil de verre utilisé dans la marque, dans le grammage, tout est gardé. Enfin, un historique qui peut pas être plus complet que ce qu'on a fait. Couleur des plugs, couleur des ailerons, type d'ailerons, fichier informatique de découpe, t'as tout là. T'as un code couleur par état. Donc tu vois, stand-by, celles qui sont pas encore validées par le client, les waiting, celles que je dois découper, celles qui sont en shape, et chaque personne qui travaille ici doit updater sa planche pour qu'elle suive le processus de fabrication et qu'elle soit réceptionnée par l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un opérateur qui découpe. Une fois qu'il a fini de découper, il update en shape. Le shaper shape la planche, il update en lamination ou artwork. Donc à part soit la déco, au spray, machin, soit un. Une fois qu'elle est laminée, une fois qu'elle est, le artwork est terminé, elle passe en stratification. Donc après, c'est les glaceurs qui reçoivent la commande. Ok, il y a ça à faire. Hein. Et c'est assez complet parce que quand tu regardes la planche, tu as toute l'historique du client, tous les détails, si tu veux, le recontacter ou s'il a besoin de se refaire faire une planche. Tu as les petites annotations sur ce qu'il faut garder en tête par rapport à ce que le client a demandé. Et tu as la déco, toute la stratification et la finition. Là, c'est le bottom et le top, c'est un gloss wet sanded. Donc, on se retrouve vraiment avec une fiche technique hyper complète qui nous permet après d'avoir toute l'historique du client et de la faire évoluer avec lui. Quand il revient nous voir, oui, il y a poids, taille, machin, oh là, gars, t'as grossi, hein. Donc il va falloir un petit peu plus d'épaisseur, en faire un peu plus large et tout. Ah oui, ta cadence elle est redescendue aussi, tu surfais deux fois par semaine, tu surfes plus qu'une seule fois, ok. Et on est capable comme ça d'avoir un suivi et d'accompagner le surfeur tout au long de sa carrière de surfeur, quoi. Voilà, il faut que ce soit extrêmement cadré. On ne peut pas laisser une part d'erreur ou un doute. Ici, tout est carré. Le temps que tu passes pour stratifier, le temps que tu passes pour poncer et tout, c'est le seul moyen de faire un travail rigoureux et qu'à la fin, tout le monde soit content du produit fini parce que voilà, t'es payé en temps et en heure. Le client en face, il est content. Et toi, tu donnes pas un délai de 4 mois et puis 5 mois après, la planche n'est pas faite. Enfin, non, ça reste. Et ça évite bien des erreurs. Il y en a, hein, ça, il y en a, on en fait encore. Hein. Même après 33 ans d'expérience, on fait toujours 2-3 boulettes. Mais beaucoup moins qu'avant. Et ça te ramène une clientèle très exigeante qui ne ferait pas confiance à qui que ce soit d'autre. Donc, tu vois, cette rigueur du début, elle apporte quand même une certaine satisfaction parce qu'on travaille avec des boîtes qui ne travaillent pas avec n'importe qui. Donc là, on a notre imprimante. Donc là, c'est une imprimante avec laquelle on imprime sur la fibre de verre. Parce que ça nous permet de sortir des décos beaucoup plus techniques. Donc on prime sur la fibre de verre.
Sur la fibre directement.
Ouais, directement, t'en as là. Mais... Alors, fibre de verre, après on fait papier, on fait nos supports pour tout ce qui est arrivée des shapers. Ou, tu vois, oui, bon, c'est imprimé sur tout et n'importe quoi.
On peut tout faire en interne.
On peut tout faire en interne. C'est la grosse différence entre être basé dans la capitale du surf, on va dire, aux alentours des Landes, Osgore, Biarritz et tout le truc, où là, t'as foison de tout et n'importe quoi. Et donc, tu peux être que shaper, tu peux être que glaceur, tu peux peut-être être que ponceur. Ça marche. Nous, ici, on est tout seul. Il n'y a personne entre Bordeaux et Nantes. Mmh. Des petits ateliers, il y en a. Hein. Mais si moi, j'ai envie de faire glacer mes planches, personne ne va me les glacer. Tu vois ? Je vais faire découper des planches, et personne qui va me les couper. Je ne peux rien faire. Donc, il faut qu'on soit autonome. Mmh. Et en étant éloigné de tous, on est devenu exigeant, performant. Et donc, du coup, on a nos propres matos pour absolument chaque étape
quoi.
À 100% autonome. Mmh. Donc, comme nos containers de matière, on passe par quasi personne, quoi. Bon, sauf pour la résine et autres. Et bien sûr, on a des coups de main qui sont donnés par nos... que ce soit du C-Base ou du Viral, bien sûr, on a du réassort. Mais à la base, on est quand même autonome pour tout.
J'espère que la visite vous a plu. Renaud nous parle maintenant de la création du nouveau Shapers Club en plein chantier actuellement.
Vous faites construire un nouvel atelier
Oui, on nous sort d'ici, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, médecine du travail, inspection du travail, ça a pu. On n'est plus dans les normes. Donc, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on ferme, soit on modernise l'atelier. Mmh. Donc, c'est quand même une fermeture de 3 ou 4 mois ici. Ça mettrait un arrêt total à la boîte. Hein, ce 3 mois d'inactivité, on ne pourrait pas. On a essayé. Hein, on s'est dit, mais attends, on va voir. On fait le truc. On loue un bâtiment à côté et on produit à côté le temps que les travaux se fassent ici. Mais il n'y a rien ici. La Rochelle, pénurie totale en immobilier. On voulait monter donc notre projet vraiment à La Rochelle parce qu'on est Rochelais. Impossible. On a travaillé sur le projet, mais 4 ans avec la CDA de La Rochelle, rien à faire. Il n'y a pas un terrain, il n'y a pas une boîte qui ferme. Enfin, impossible de rester dans le coin. Après, à notre côté, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on se rapproche tellement du surf. Là, on est juste à l'entrée d'Oléron. Donc, à côté de la côte sauvage, on est à 10 minutes du spot. Ouais. Là, mec, on est à 40 minutes si tu veux aller surfer. Il n'y a pas plus proche. Et donc, on est vraiment hyper bien. Donc, en fait, c'est une bénédiction.
Oui, au final.
Finalement, c'est vraiment.
C'est ça qui a orienté votre choix, de faire aussi un lieu de vie.
On avait toujours eu en tête de faire ça, qu'on a toujours essayé de faire ici. Thomas Beckson, quand il a demandé son atelier à Noussa, après nous avoir visité ici, s'est dit regarde, Renaud, moi, je monte ça. Donc, j'ai un barbeur, j'ai un bar. J'ai un petit centre de training, j'ai mon atelier et je regroupe tout en un seul et même bâtiment et ça marche trop bien. Et on s'est dit, mais ouais, mais il a tout compris lui. On l'a inspiré quand il est venu commencer à travailler avec nous. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Il a monté un truc de ouf à Noussa. C'est trop bien, il faut qu'on fasse un truc comme ça. Si on bouge, il faut qu'on fasse ça. On ne peut pas rester à refaire un magasin et une factory de planches derrière. Il faut qu'on voit plus gros. Et là, alors qu'on avait repéré un terrain non loin de ce terrain-là, de ce bâtiment-là, à la fin d'une réunion avec la CDC de Marennes, ils nous disent, les gars, on a un autre bâtiment qu'on pourrait vous proposer. Parce que là, vous êtes partis sur un terrain. Le temps que ça sorte de terre, machin. Là, on a un bâtiment, c'est une friche. Vous prenez une friche industrielle. Et franchement, ça pourrait carrément le faire. C'est grand, c'est peut-être mieux placé. Et il y a moyen quand même de faire un beau truc. Putain, on y va. Oh, les volumes, le truc, il est immense. Et c'est, niveau immobilier, c'est une affaire. Pour le prix où ils nous le vendent, on se dit juste... Maintenant, le truc, c'est qu'il c'est tellement
faut,
immense.
Faut le remplir.
Faut le remplir. Là, j'avoue que déjà, je suis un peu insomniaque. Je dors pas tellement longtemps dans la nuit. Mais là, j'ai fait des encore plus petites nuits. On devrait déménager en fin avril.
Fin avril, ok.
Fin avril, et ça ouvrira le 6 juillet.
Ça marche. Et du coup, il y aura atelier, surf shop, bar, snacking, training, coworking, skatepark. C'est ouais. Toujours ça.
Ouais. Ah oui, cool. Ça bouge pas. Il faut au moins qu'il y ait tout ça. Donc, on a une sorte de petit pool. C'est okay. Un petit pool à l'entrée. Et par chance, on a la mairie de Marennes qui a envie d'installer un autre skatepark de 600 mètres carrés juste derrière.
Bah,
c'est pas plus mal.
Eh bah, parfait.
On est plutôt bien.
Tu disais que vous faisiez un millier de planches par an, c'est ça?
Ouais.
Au max, quoi.
Ouais, au max.
Quand vous êtes au taquet.
On peut pas faire plus.
Oui, c'est bien déjà.
Bah, Poucas fait ça par mois. Hein.
Certes, tu peux toujours développer. Mais du coup, dans le nouvel
c'est
atelier,
pas l'objectif.
Vous restez sur les mêmes.
C'est pas. On en fera certainement plus parce qu'on sera plus efficient, parce qu'il y a beaucoup plus de place. Là, si tu veux, quand les gars commencent à balancer des hautes côtes, il y a toujours les glaceurs. Donc, les hautes côteurs, il faut qu'ils trouvent des places ailleurs, ou alors ils attendent, ils laissent passer. Là, il y a une salle de hautes côtes, il y a une salle de glace, ouais, il y a cadence. Une salle de fins. Donc, il y a pour chaque étape, il y a une salle. Donc, du coup, personne ne se gêne.
Et par contre, vous n'avez pas prévu d'agrandir l'équipe, quoi. Ça reste le même staff.
Je veux dire, on vit un moment un peu charnière dans, je pense, dans l'industrie.
Ouais.
Pour être allé aux États-Unis pour Boardroom, ils étaient à allez, moins 30, moins 40% de prod hein, là-bas. Mmh. Ils fabriquaient normalement 150 planches à la semaine, comme Pure Glass, comme Waterman Guild et des trucs comme ça. Là, gars, il y avait 2-3 gars qui bossaient dedans. Les racks étaient vides. Ils nous ont dit on va peut-être faire 100 planches cette semaine. Mmh. Donc, tu sais, il y a un bon tiers qui a disparu. Hein. Enfin, voilà.
En tout cas, vous avez...
dans le business plan, ouais. Si on reste comme on est, ça passe.
Ça marche. Et vous avez la possibilité de vous développer aussi si jamais.
On a possible. Bah là, tu vas voir les volumes. Je pense qu'on peut faire, je sais pas, 4000 planches dans le truc facile.
D'accord.
Enfin, voilà, c'est effrayant presque.
Vous bossez un peu sur. Tu parlais d'Eon justement, vous bossez un peu sur des produits un peu plus éco et compagnie.
Ah bah oui, très important. Nous, on a été en 2008, on a fait la Bioboard. On a reçu le premier prix Eurozima Innovation. Et la Bioboard, après, bon, elle a été reprise. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un pain avec un noyau, on avait sourcé un pain, on travaillait avec Homeblown, un pain à base de maïs. Mmh. Le pain, la mousse, tu pouvais t'en servir de compost. Tu plantais un truc dedans, tu mettais de la flotte, ça poussait dedans.
C'était quoi le nom, tu l'as dit ?
Homeblown en Angleterre.
Okay.
Il faisait un pain éco-conçu, 50% en huile de maïs avec je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Enfin, c'était un truc de fou. J'avais fait faire des lattes en bambou de la forme des foils, enfin des rockers, c'est-à-dire que la plaque de bambou et les fibres avaient été mises dans l'arc dans le rayon du pain. C'était pas une latte qui était coupée dans un morceau ouais. De bois, dans une planche. La latte avait été faite sur mesure, okay. Dans la forme du pain. On avait fait des tests, donc on avait testé la toile de jute, le lin, le chanvre, le bambou en fibre, hein, et on avait fait, on avait sélectionné le lin, et on avait réussi à trouver une résine époxy biosourcée UV, donc avec zéro émission de voque et tout le bordel, et le tout faisait que la planche elle était mais hyper éco-conçue, c'était un truc de fou quoi. Et on avait gagné le premier prix comme ça. Et la planche, c'est un peu plus démocratisée en termes de produits organiques, fibres organiques. Et depuis, on en retrouve beaucoup d'autres. Mais nous, on est, je veux dire, 2008, on avait reçu le prix et on était, je veux dire, précurseur à ce niveau-là. Moi, je suis. C'est hyper important qu'on comprenne où vont nos déchets, ce qu'on en fait. On est dans une industrie relativement polluante. C'est une certitude. On paye la taxe éco pour tous nos produits, combinaisons, planches de surf, tout. parce qu'on veut que voilà, on va avoir une obligation très prochainement de trouver une deuxième vie à nos produits, ou de moins, ou alors au moins comment les recycler, ou la fin de vie du produit, comment est-ce que qu'est-ce qu'on va en faire. Ça va être une obligation française, mais européenne. Pour quoi que ce soit, tes vêtements, ta planche, ta combi, tout, je parle pour notre secteur, mais ça sera dans tous les secteurs. Il faut s'y préparer. Donc il faut absolument qu'on ait déjà des solutions pour la fin de vie d'une planche de surf. C'est essentiel. Moi, j'ai toujours eu, enfin, on a toujours eu ça en tête avec Tom. Dès lors qu'on peut faire des petits objets avec nos résines, on fait. Veolia s'occupe du recyclage de nos produits, mais on sait très bien que c'est certainement brûlé ou enfoui, donc voilà. Mais on rejette rien ne va dans des déchetteries, tout est suit un circuit normal de récupération. On est propre là-dessus, et comme je te l'ai dit, on recrache rien en extérieur, tout doit être contrôlé. Il n'y a pas de rejet sauvage, on n'a pas ce genre et c'est pas que ça, c'est aussi pour le bien-être des gens qui travaillent dans l'entreprise. On n'est pas on est très au fait des handicaps, des maladies, nous dans notre famille, donc on s'en voudrait toute notre vie si jamais un de nos employés venait à tomber malade parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait au niveau de la réglementation, on n'avait pas respecté. Donc c'est pour ça qu'on a des souffleries puissantes, c'est pour ça que les gars ont leurs combis, ils ont leurs masques, leurs machins, il y a les vieilles, tu changes tes cartouches, tu reprends une nouvelle cartouche, enfin il n'y a pas de restriction là-dessus, c'est open bar, il faut tout ce qu'il faut pour rester, c'est hyper important. Là-bas tout sera chauffé, les atmosphères seront tous régulées, on veut que ce soit NIF de chez nickel. On travaillera avec autre chose, pas d'acétone, de l'arcane 225, recyclage de tous les produits. Voilà, ça fait partie de nos obligations, j'ai envie de dire, c'est tout. On peut pas faire autrement. Il y avait, j'ai une phrase qui revient souvent de Reeves qui disait l'être humain, il est incroyable. Il vénère un dieu invisible et il détruit une nature visible. Et en même temps, cette nature visible, c'est ce dieu invisible qu'il vénère. C'est fou de détruire la nature comme ça, tout en ayant une conscience de ça. Il faut que ce soit, faut que les gens ils aient plus conscience qu'on peut pas continuer comme ça à polluer et à consommer de cette façon-là. C'est pas possible.
Et du coup, après, à la suite de la Bioboard, là, vous continuez à proposer des gammes. C'est quelque chose qu'on
voulait. Alors, 2008, on était un peu précurseur. Alors, pain jaune, strat, lin, augmentation du prix d'au moins 20%. Autant dire qu'on n'en a pas fait beaucoup. Mais on l'a mis en avant, hein. On a fait tout ce qu'on a pu. Hein.
Et on vous en demande aujourd'hui ou...
Non.
Mais ou de ça ou d'autre
chose. Non, mais alors après polyafoam, on pourrait, on en a fait, hein, on pourrait faire toute une gamme. Ça fait partie des options. Mais j'ai pas l'impression que les gens soient vraiment sensibles à ce genre de choses.
Il n'y a pas de demande. C'est ce qu'on. À chaque fois que je pose cette question, c'est un peu la réponse qui ressort, hein, c'est qu'il y a quand même peu de demandes au final, ou que les gens sont pas prêts à payer plus cher. Ou qu'ils aiment pas les planches marron.
Ou tout simplement que le problème aussi, c'est que la perf, elle est pas toujours là.
Aussi après.
Et donc à la fin, t'as envie de dire, mais putain, ça fait quand même beaucoup de choses qui font que c'est pas super sexy. Ben non, mais c'est pas.
C'est difficile à intégrer.
C'est difficile à. Ouais, faudrait qu'on ait des obligations. J'ai envie de dire, c'est ça, qu'on ait des contraintes, voilà, qui soient. Le gouvernement mette vraiment des normes ou des quotas ou j'en sais rien. Et là on serait obligé d'y passer, quoi. Mais le client aussi,
ouais, bien sûr.
A fortiori, il serait obligé de le faire, et donc ça marcherait. Mais sinon non, ça passera jamais, hein. On travaille avec une marque qui s'appelle Varuna, qui fait des planches en balsa, localisées à Sumatra, avec des forêts raisonnées. Ils plantent leur propre balsa. Ils réintroduisent toute la faune qui a été et la flore qui a été détruite par les forêts de palmeraies, d'huile de palme, avec les orang-outans qui reviennent et tout. Donc ils ont un bilan carbone sur leur production de balsa qui est très 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 basse. Les planches sortent au poids d'une planche en PU. Donc ils arrivent à sélectionner exactement la portion dans le tronc. Un balsa en 4-5 ans, il fait 25 mètres de haut et le tronc il est comme ça. Donc tu peux l'utiliser tout de suite pour faire quelque chose d'assez intéressant dans notre métier. Donc ils sélectionnent la portion du tronc qui peut être utilisée pour une planche de surf et ils font des planches de surf avec ça. La planche de surf importée chez nous, elle a un bilan carbone à zéro ou négatif. Donc assez intéressant et très peu de produits polluants en fait et recyclage easy. Donc on travaille avec Arkema, avec
vous travaillez avec eux, comment vous faites? C'est vous importez leurs produits pour les revendre ou vous fabriquez là, avec eux
Bah, là avec eux tu travailles comme s'ils étaient un peu ils vont c'est eux qui sont ils ont leur technologie, ils découpent, ils font les boards et après on les voit la semaine prochaine. Ils viennent nous rencontrer, ils commencent juste la commercialisation des planches. D'accord. Là c'est sur Bali et en Australie qu'ils les vendent. Il y a quelques shapers qui ont rejoint le team. Donc il y a nous au début, il y a Maurice Cole, il y a Chili, il y a Darcy je crois, il y a Boyang, il y a Fitzgerald qui vient de rejoindre le team. Donc là ils fabriquent et là ils font un lancement, on va dire, un peu plus mondial. Ils vont aller aux États-Unis, ils vont venir en Europe. Donc nous on va servir un peu de hub, on va certainement revendre leurs produits. Mais ça c'est, on est allé dans, on les a suivis parce que derrière la démarche elle était intéressante. Moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Mais comme je te dis, par exemple on travaille avec Arkema c'est un fabricant en composite. On a testé une résine qui est en fait tu pèles ton pain, tu récupères la fibre, tu broies la fibre, tu la mets dans un alambic, ça monte en température, la résine se vaporise par effet de refroidissement, elle tombe dans sa cuve et 85% de la résine est récupérable et réutilisable. Dans l'autre bac reste uniquement la poudre de fibre de verre. Donc tu as un pain d'un côté, et si tu prennes un pain un peu propre, tu as la fibre de l'autre et tu as ta résine que tu peux utiliser. Et donc tu as une sorte de cercle un peu vertueux, tu peux réutiliser le produit encore et encore et encore. On est toujours à l'affût de ce genre de choses. On est toujours intéressé pour qu'est-ce qu'on pourrait
Mais c'est plus de la R&D encore pour le moment.
Ça reste de la R&D.
Des vraies gammes que
ouais.
vous
Ouais. Parce que mine de rien, tous ces produits sont très rares, encore très chers, parce que très peu utilisés. Ouais. Donc le lancer sur un marché, c'est compliqué. Mais Polyolafom, quand on était dans les premiers à les essayer, quand on a acheté, on en a pris, bah, tout simplement, c'était pour les soutenir. Eon, c'est pareil. On pourrait continuer à prendre du Marco, mais moi je pense que c'est hyper important de les soutenir là maintenant tout de suite parce qu'ils sont dans une phase de développement et une fois que cette phase elle est passée, ça y est, ça roule pour eux et enfin on a un produit pour tout le monde qui a bien fonctionné. Mais voilà, c'est comme une clientèle, si vraiment elle n'est pas poussée pour avoir des planches en lin ou des planches en toile de jute ou en toile de bambou, bah on n'en fera jamais parce que ouais. On va pas faire des planches pour faire des planches. Si vous en voulez pas les gars, ben
il faut qu'il y ait de la commande.
Après je comprends que tout a un coût et que les mecs ils achètent pas des planches pour soutenir une industrie, ils en ont rien à secouer et je comprends aussi, hein. c'est pas tous des philanthropes les gars, donc ça en effet c'est un peu compliqué, sauf si derrière il y a une administration qui vient et puis te met des quotas. Bon bah là on sera obligé de tous y passer, comme ça
marche. Écoute, on a dit pas mal de choses sur la boîte, est-ce que on peut parler un peu de planches?
Ouais.
De quoi est-ce que, déjà, moi j'ai une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a un shaper ou même carrément une planche en particulier qui t'ont influencé un ou plusieurs hein, ça peut être.
Bien, moi j'ai été influencé par du Rusty parce que c'était l'importation locale. Donc du Rick Hammond beaucoup, et puis du Rusty Posendorfer. Donc j'en ai scanné des boards, j'en ai regardé sous toutes les coutures, des shapes trop bizarres parce qu'ils étaient vraiment avant-gardistes. Des pattes au conner avec des blunt nose tout ronds qu'il avait utilisé pour du. On en avait une ou deux pour un Endless Summer 2. Béranger en avait racheté et elle en avait ramené. J'ai vu des ovnis au niveau des bords, des trucs complètement fous quoi. Des planches percées avec des vent systems, de l'eau qui. Franchement, j'ai vu plein de trucs complètement dingues. C'était fou, j'ai vu des trucs complètement dingues. Donc des trucs qui m'ont influencé, ouais, du Rusty, du Graham Amish pour du Channel
en tout cas il y a pas un mec en particulier
Malcolm Campbell quand même, je pense, avec du Bonzer. Si j'ai eu un accident moi j'ai toujours été un petit peu bagarreur et tout, donc j'ai eu un accident à l'école, voilà, on s'était battu même. Et puis j'ai eu une blessure au dos. J'ai fini à l'hôpital. Et 2-3 jours d'observation, j'ai le bassin qui avait été déplacé. Et puis mon père, rien à faire. Puis à l'époque, t'avais pas de télé, t'avais rien. Tu restais dans la chambre d'hôpital et puis t'attendais que ça passe quoi. Et peut-être une télé, ou alors on ne l'avait pas pris, mais je me souviens pas que j'ai une télé. Je me faisais chier. Et mon père, il vient me voir et il me ramène 2 bouquins de surf. À l'époque, il y avait évidemment Surf Session. Mais c'était pas un Surf Session, c'était un Surfing et un Surfer Magazine. C'est là où je suis devenu fan de ce magazine-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait le Design Forum à la fin. Et j'ouvre ce putain de Design Forum et à la fin, j'ai trouvé tellement avant-gardiste. Il y avait les Campbell Brothers. Ils avaient pris un Clark Form, un pain. Ils avaient mis un pochoir avec leur logo dessus. Ils avaient sprayé leur logo comme des porcs. Ils avaient planté les fins dedans, les runners, à l'arrière. Leur aileron et tout le truc, et ils avaient fait leur pub comme ça. Pendant que tous les autres shapers, c'était hyper soigné, la planche était prise en photo d'une certaine façon, tout se ressemblait, c'était hyper méga clean, il y avait les dimensions des planches, la strat, pourquoi, quel surfeur elle était designée pour, et eux, ils avaient fait un truc de cochon, mais j'étais tellement. Ça m'a choqué de voir ça. Je me suis dit, mais un jour je travaillerai pour eux, ou un jour je le rencontrerai, ce gars-là. Il faut que je le rencontre. Il y avait toute leur histoire et tout. Et en fait, ils faisaient des planches qui étaient mille fois plus techniques que le pauvre triple concave thruster qu'on voyait dans les années 90. Eux, ils étaient, mais ils avaient inventé le thruster quasiment, quoi, bien avant Simon Anderson. Et 10 ans après, on bossait ensemble. Donc il m'a influencé quand même, j'ai envie de dire. Il m'a donné envie de faire. Ça m'a donné envie. C'est sûr, mais j'en ai quelques-uns. Okay. Mais j'ai pas choisi, disons, c'est la force des choses. Comme ça.
Okay. Et t'as toujours fait tout type de planche depuis le début, ou c'est arrivé petit à petit, quoi?
Non, j'ai toujours tout fait.
Okay.
J'ai un très bon pote, Rico Leroy, qui est un waterman incroyable, qui est de la cano, et qui était un très très bon vendeur dans un magasin Matari sur la cano, et qui me vendait énormément de planches. C'était un team rider et un vendeur incroyable. Et lui, c'est un putain de gabarit, c'est un waterman. Il est hyper grand, hyper costaud et tout. Et lui, son kiff, c'était de faire du tandem. Et il m'avait. Et moi, à l'époque, on recevait. Mais j'en ai encore un pain, qui vaut une fortune maintenant, un Clark Foam, un 12 pieds 3. Et il m'avait dit. Putain, j'aimerais trop essayer le tandem. Et moi, je m'en étais fait un tandem. Je surfais avec ma femme, on essayait, on ramait, je la portais pas, hein, mais on surfait à deux, qu'on en avait fait à Waikiki, puis j'avais envie d'en refaire, j'en avais fait un. Et j'avais chépé chez moi avant, dans notre petit atelier de 60 mètres carrés, avant qu'on arrive ici. Hein. Je l'avais chépé à la main, tout. Le truc faisait 3,60 m, ma salle devait faire 3,80 m. Donc j'avais 10 cm au nose et au tail pour pouvoir passer. Je suis passé dessous pour faire un à côté et pour faire l'autre. J'avais glacé dehors, pour te dire. J'avais poncé et glacé dehors la planche. La planche était tombée, il y avait eu du vent. Elle était tombée dans les cailloux pendant que je faisais mon haut de côte. Ah, elle était recouverte de cailloux, c'était horrible, je les avais enlevés. Enfin bon, et tout ça pour dire que j'ai toujours tout shapé. J'ai fait des tandems à mon premier tandem longboard de 12 pieds cake. Je l'ai fait à... Je sais pas, à 20 ans. Et après, ça s'est sophistiqué le tandem. Donc on faisait des doubles rails avec un step deck. Ça ressemblait à la G-Force de Gallagher à la belle époque à Hawaï quand il faisait ça. Une planche qu'il avait sortie avec Santa Cruz où il y avait une espèce de step deck, on aurait dit une espèce de skateboard surf. Et t'avais, les rails étaient comme ça et t'avais un putain de step sur le dessus. C'était complètement fou comme planche. J'en ai fait je sais pas combien, des trucs comme ça. Donc je faisais aussi bien de la planche pour des gamins, genre des 4-6, que je faisais des planches de 12 pieds et quelques pour des monstres, quoi. Donc des gars plus leur petite meuf en tandem, quoi. Et Rico a fait champion du monde il y a pas si longtemps, pas sur nos planches, mais bon voilà.
Il y a des
toujours tout fait.
Question à la con, mais il y a des lignes directrices quand même dans toutes tes planches, des choses que tu retrouves, que tu penses qui définissent un peu genre ton approche ou ton style.
Non,
ou...
malheureusement pas. J'ai trop d'influence. Okay. Je suis influencé par trop de trucs. Je rencontre trop de gars ici. On a 400 modèles au catalogue. Pas UWL, hein, on fait la somme de tous les shapers, de tous les fichiers que j'ai, de tous les différents modèles.
Les licences, les marques.
Ouais, enfin, tous les gars qui viennent, ils viennent avec leur. Leur clé, et puis. Enfin voilà, il y en a tellement de planches que je suis noyé dans tout ça.
Mais comment tu fais pour
savoir? Alors par contre, j'ai un très grand respect sur la propriété intellectuelle. J'utilise pas le fichier d'un gars pour faire tout d'un coup un modèle à moi, ouais, ou un truc comme ça. Je vais galérer X temps, je la vois, je peux utiliser mes yeux, je peux utiliser mes mains et le reste, ou des outils pour mesurer. Mais je vais pas voler un fichier, je peux pas. Ouais, moralement, je peux pas. Je me sentirais vraiment comme une merde. Ouais, donc il y a moyen, hein, ça, ouais, en deux, je prends n'importe quel fichier, j'ai tous les deux.
Ils auraient plus trop envie de venir non plus.
Ils le verraient jamais.
Ah, tu penses? Oui, remarque, ils voient pas les planches que tu sortes.
Bah non, c'est impossible.
Pas toutes. Non, mais après, oui, moralement.
Ah non, moralement, non, je ferais pas. Quand. Voilà, si jamais il y a vraiment besoin, il y a une planche qui est cassée pour X raison, que le shaper ne revient pas et que voilà, c'est un très bon client et tout, il nous dit moi ça me dérangerait pas que tu la fasses, Renaud, mais est-ce que, on dit, je demande au shaper, Thomas, est-ce que je peux refaire la planche pour machin? Il me dit vas-y, pas de problème, je fais confiance, fais la planche. Je la fais, mais sinon j'ai jamais fait ça, que les licences. Yes.
Okay.
On fait du bouillon en licence et on fait du Fitzgerald un petit peu en licence
en ce moment.
Ouais.
Le reste, vous avez arrêté?
Le reste, ça nous intéresse pas de le faire, c'est tout. C'est eux, ils nous ont demandé de le faire, on le fait, sinon on le fait pas.
Et les licences d'avant, ouais, vous faites plus?
Non.
Trop de... Maintenant, c'est plus le Shapers Club et vos marques à vous et...
Non, c'est pas ça, c'est que si on nous le demande, pourquoi pas. S'il y a un réel marché, on le fera. Mais je trouve que ça marche mieux quand le shaper d'origine, originel, vient et
ouais,
le
ouais.
fait.
Comme t'expliquais tout à l'heure.
Ouais. Malcolm, tu vois, Malcolm, on a eu déjà des discussions. Il veut un peu passer flambeau. Moi, j'ai dit non. Je pense que c'est plus intéressant que tu continues à venir. En plus, c'est des mecs qui n'auront jamais de retraite. C'est des mecs qui vont être obligés de bosser jusqu'à la fin de leur vie. Moi, je préfère quand il vient, il ait 50 planches à faire, que moi j'en ai fait toute l'année et que il a 10 planches à faire. Et il a touché une royalties de quoi, de 50 balles. Il vivrait pas de ça. Le mieux, c'est qu'il vienne et qu'il en fasse 50 et qu'on le paye le vrai prix. Et au moins, il continue à vivre, toi, décemment, avec une vraie relation commerciale.
Tu surfes quoi, toi, au quotidien?
Oh, bah, mec, ça fait longtemps que j'ai pas surfé, mais si je surfe. le métier de shaper, ça tue le métier de surfeur. Hein.
Ouais.
Ah, bah, ouais. À un moment, tu passes tous plus de temps à shaper qu'à surfer. Quand tu vas à la plage, bah évidemment, le vent est dedans. Bah évidemment, le soleil il est pas là. Bah évidemment, il y a trop de monde. Bah voilà. Quoi. Donc, évidemment, c'était mieux tout à l'heure. Bah au bout d'un moment, tu fais autre chose. Hein. Donc c'est pareil. J'ai commencé très tôt le surf. Donc, quand j'y vais, j'ai pas de mal à m'y remettre. Donc on va dire, je surfe plus de la petite board. Et
puis t'as de l'activité physique apparemment à côté.
Ah ouais, je fais beaucoup. Ça. J'aime bien la bagarre, donc je suis physique. Le sport de combat et le reste, ça a toujours été mon kiff. Donc j'ai toujours la forme physique. Mais j'ai tendance à moins surfer, mais je surfe, on va dire, plus du fichier, un fichier un peu copieux, un peu volumineux. 5-10, 6-0, 38 litres, et je suis content. Voilà.
C'est les tiennes que tu
ouais.
surfes
ou... Ben ouais.
T'as pas envie de demander
Et genre, ils me le font des fois sans que je demande.
Okay,
cool. Celle-ci est pour toi. Moi j'ai. T'as Renaud, je t'ai fait ça.
Sympa.
C'est sympa, ouais. Neil m'en a fait. Malcolm, il en a fait. J'ai toujours apprécié. Donc j'en ai à la maison. Mais c'est vrai que le métier de shaper, ça, c'est très très accaparant. Et donc du coup, t'as moins d'énergie, t'as moins la patience. Et puis après, c'est pas que tu deviennes rockstar, mais quand tu vas à l'autre, c'est « Et ma planche, elle est finie. Et ma planche, ça va, nana. Et je n'irai pas ici. » Et j'ai des fois, je rentre... les gens savent où je mets mes clés de camion. Quand je reviens, j'ai les planches pétées dans le coffre.
Ah ouais,
ouais. Carrément. Donc je rentre avec des planches à réparer. Tu vois, je suis là, mais non, je... Enfin voilà. Au moment, tu... Moi, j'aimerais... Enfin, moi, c'est plutôt aller à un endroit où on me connaît pas.
Ouais, faut que t'ailles
surfer
loin,
en Bretagne, en fait. Des trucs comme ça, où les mecs sont cool. C'est... Voilà, et puis, on sait pas qui je suis, et je réapprends à surfer, et voilà, là, ouais, je ça le fait, ouais. Donc, dans le coin, je peux, mais j'espère plus déléguer sur Marine, ouais, pour me refaire un peu plus, de santé, voilà, d'être plus retour un peu dans le skate, dans le surf, et pouvoir retourner à la plage. J'espère.
Ça va venir.
Ouais, j'espère bien.
Souvent, on finit un peu l'épisode en parlant de quelques modèles de planches spécifiques, tu vois, mais t'en fais tellement. Je sais pas si t'as des planches en particulier en tête dont t'aimerais parler, de leur shape, de leur ou parler de glace, ou parler de ce que tu veux, mais...
Bah moi, dans mes boards, j'ai pas l'impression que j'ai des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et c'est pas pour critiquer, j'ai écouté pas mal de tes podcasts, et souvent les shapers ont tendance à raconter l'histoire d'une de leurs boards et tout. Ça reste un triple concave, machin, avec des Raissa, nanana, avec... Je trouve pas ça passionnant. Mais par contre, j'ai... des planches atypiques de shapers voilà, qui ont fait la renommée de shapers. Enfin, j'ai Alpha Omega de Malcolm, j'ai un Spoonfish de chez Joshua Keogh en bas, je peux te montrer, avec des bottom shapes de fou, des trucs où t'as vraiment là une très grosse recherche dans le travail de bottom, dans le travail d'outline, dans les rockers, dans l'histoire de la board, parce que l'Alpha Omega, ils font ça depuis 77. Là, le Spoonfish, c'est plus une board. C'est presque un side cut, c'est un truc mis au point avec un peu maquis. Ça reprend, on dirait, un espèce de snowboard. C'est des planches assez particulières. Ouais. Ça, oui, je peux plus te parler de ce genre de choses que mes planches qui sont des planches perf qu'on va retrouver. Franchement, ça ressemble à une JS ou à une RT. Enfin, ça a rien de. Ça n'a rien d'étonnant, et je pense que c'est ennuyeux plus qu'autre chose. Je n'ai pas de planche personnelle vraiment à te raconter. Malheureusement, j'ai des planches qui peuvent être un peu originales, mais qui vont être boudées, qui des fois sortiront bien plus tard, parce que un mec, j'ai cassé ma planche, t'as quoi me passer, j'ai ça. Et le mec va, enfin bon, ouais, t'as que ça, bon, je la prends, allez, vas-y. Puis après, il revient, il dit, non mais putain, c'est le bord, mais si. Et comment ça fonctionne, mais c'est incroyable, j'ai mis des manœuvres, comme j'ai mis des pâtés en haut là, c'est incroyable, il faut que tu me... Pourquoi tu la mets pas? Mais mec, je l'ai fait il y a 4 ans, je l'ai proposé, t'as pas voulu l'essayer. Elle glande là depuis je sais pas combien de temps. Donc des modèles atypiques j'en ai, mais qui sont dans des tiroirs et qui, je sais pas, un jour seront peut-être surfés par quelqu'un qui voudra bien... C'est aussi le travail du Team Rider qui fait à reculons. Parce que dès que ça sort du classique, tu vois, nose pointue, tel carré, ben ça y va déjà avec un a priori, et donc du coup, ben voilà, ça va prendre la planche, mais avant même qu'il ait mis les pieds dessus, ça fonctionne pas. Mmh. C'est dommage. Donc voilà. Donc sinon, je pense que mes planches sont assez banales en fait. C'est du voilà, du double concave, simple concave, thruster, twin, tout ce qu'on voit en ce moment partout. Et je voilà, j'ai rien d'étonnant à promouvoir.
Temps, tu sors une bizarrerie.
Je sors des bizarreries des fois, mais tu sais, des fois le plus simple et des fois le plus efficace.
Ouais, bien sûr.
Voilà, donc. Et moi, j'ai tellement une bibliothèque de boards que j'ai en tête que j'aimerais faire que très rapidement, je peux te créer des modèles tous différents. Je fais ça à longueur de journée. Et des modèles qui ne sont pas du tout à notre catalogue. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, bah, elle se noie un petit peu dans tout ce qui se fait déjà. Mon œil va être plus attiré par des modèles atypiques, par des, je te dis, des bottom shapes très chiadés, je te dis, des side cuts, vraiment des Ryan Birch avec des centres plus étroits que des noses, des tailles flexibles, des trucs bizarroïdes. Ouais, ça va m'attirer, c'est sûr. Mais sinon, la demande en elle-même, elle restera toujours sur du classique.
Ça t'attire, mais on t'en demande pas, quoi.
Et voilà. Ouais. Ou on n'est pas au bon endroit pour. Peut-être que dans le sud-ouest, les gens sont plus friands ce genre de choses. Ou alors, j'ai pas, voilà, dans mon team, j'ai pas de foufous qui ont envie d'essayer ce genre de planche, je sais pas.
Et t'as pas envie de te les faire pour toi, justement, quand tu seras à Marraine.
Peut-être, ouais. Si, t'as raison, c'est faisable. Ouais.
S'ils veulent pas essayer, il faut bien que quelqu'un essaye.
Ouais, mais alors tu sais, des fois, t'as pas le niveau pour certaines planches. Tu vois, je pense pas que Merrick il ait surfé les planches de Slater quand Slater a été 11 fois champion du monde.
Ouais, bien sûr.
Il les faisait, mais je pense pas qu'il ait ridé.
Ouais.
Donc il y a certains modèles, tu vois, que t'as envie de faire, mais tu sais très bien que moi je fais 90 kills, je vais pas me mettre sur une 5-8. Mais je la trouve vraiment sexy dans ces côtes-là et tout. Je pense que vraiment ça peut donner un truc vraiment cool à l'eau. Mais je vais me noyer si je la prends, quoi. Donc il me faut vraiment un mec, un team rider capable de la surfer. Et c'est pareil, il y a des grosses boards. Je suis pas le meilleur en longboard, tu vois. Donc si j'ai un team rider qui est meilleur que moi, franchement, c'est à toi de l'essayer. C'est ton taf, quoi. C'est ça. Donc oui, j'ai envie de les essayer, mais je sais pas si je suis le meilleur testeur.
Ok, je comprends.
Et voilà pour la deuxième partie de cet épisode consacré à Renaud Cardinal. Merci Renaud d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Rendez-vous sur notre site et notre compte Insta pour retrouver tous les liens du Shapers Club, du WL, de Cardinal et d'Addiction. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram shape.ology pour être au courant des prochaines sorties et découvrir les photos et vidéos de l'épisode. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous trouverez l'ensemble de nos épisodes, un lexique, un annuaire du shape français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.